avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Au sommaire de cette édition, la démission de Kevin Rudd de son poste d'ambassadeur aux États-Unis n'est pas liée à ses différends avec Donald Trump, affirme le Premier ministre Anthony Albanese. En France, ouverture du procès en appel de Marine Le Pen. Quels sont les enjeux pour elle et son parti? Et le Conseil de sécurité de l'ONU tient une session d'urgence sur les besoins des civils en Ukraine. La démission de Kevin Rudd de son poste d'ambassadeur d'Australie aux États-Unis marquera de fait la fin de sa vue publique. L'ancien premier ministre travailliste et ministre des Affaires étrangères achèvera sa mission le 31 mars prochain. Il prendra ensuite la présidence mondiale du groupe de réflexion sur les relations internationales, l'Asia Society, et dirigera son centre d'analyse sur la Chine, Center for China Analysis. Le premier ministre, Anthony Albanese, a démenti que la décision de Kevin Rudd de quitter ses fonctions un an plus tôt serait liée aux tensions entre l'ambassadeur et l'administration Trump, citant notamment un échange cinglant entre Donald Trump et le Dr Rudd lors d'une réunion bilatérale.
Kevin Rudd will tell you privately what he has said publicly and what drove him to write the book, that the relationship between the United States and China, the two big superpowers, is he thinks that the most important one that will define the mid part of this century. He sees this as a continuation of his public service to not just Australia but to the global community.
Le gouvernement australien a adressé un avertissement sévère à l'Iran alors que le bilan des morts par suite des manifestations anti-régime dépasse les 500 morts. Le premier ministre Anthony Albanese a qualifié le gouvernement iranien de régime oppressif qui devrait être remplacé par la démocratie, tandis que la ministre des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que la répression des manifestations en Iran était de plus en plus brutale, tandis que l'ayatollah Ali Khamenei tente de se maintenir au pouvoir.
What I would say to that regime is not only is the world calling on you to stop killing your people, but a regime that requires the murder of its own people to maintain authority is not a regime with any legitimacy.
Et face à la répression des manifestants en Iran, Donald Trump étudie des options militaires très fortes. Les conseillers du président américain doivent lui présenter ce mardi 13 janvier une série d'options militaires et économiques destinées à répondre à la sanglante répression des manifestants qui s'écoule le pays depuis le 28 décembre. Des discussions se poursuivent au plus haut niveau à la Maison-Blanche, selon plusieurs sources, alors que Washington n'exclut pas une nouvelle intervention après les frappes menées en juin dernier contre la République islamique. Reportage Nicolas Falaise pour RFI.
Le président américain assure que l'Iran veut négocier, que pour cela Téhéran a contacté les États-Unis et qu'une rencontre est même en cours de préparation. Mais Donald Trump menace aussi. Nous pourrions devoir agir avant une rencontre, dit-il, lui qui parlait ces derniers jours de frapper fort en Iran. Quels effets cela peut-il produire en Iran? Nous avons posé la question à une Iranienne qui séjourne actuellement en Europe pour ses études.
Pour qu'une révolution produise un résultat positif et durable, il faut qu'elle soit totalement à l'écart de toute influence extérieure. Mais beaucoup d'Iraniens sont devenus favorables à l'idée d'une intervention de Trump, comme il l'a fait au Venezuela, parce qu'ils sont à bout et ils pensent que peut-être une intervention de Trump permettra de faire tomber le régime plus vite et avec un bilan moins lourd.
Rappelons que les États-Unis ont bombardé les installations nucléaires de l'Iran en juin dernier en se joignant aux frappes israéliennes pendant la guerre de 12 jours.
En France, le procès en appel de Marine Le Pen s'ouvre ce mardi 13 janvier à Paris. L'ancienne présidente du Rassemblement national va être jugée en appel pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Le RN est soupçonné d'avoir payé certains de ses salariés avec l'argent du Parlement européen pendant 12 ans. Comme l'explique Raphaël Delrové, c'est l'avenir politique de Marine Le Pen qui se joue.
Pas question pour elle de montrer le moindre signe de faiblesse.
Je suis comme toute personne qui fait appel, pleine d'espoir.
Et quand bien même elle joue sa peau, Marine Le Pen n'a pas l'intention de plaider coupable.
Il y a un seul axe de défense, c'est de dire la vérité, en espérant être mieux entendue en appel.
Tout à l'heure, elle se présentera donc comme innocente et de bonne foi, elle mise sur le changement de juridiction.
C'est une nouvelle juridiction, avec de nouveaux magistrats, l'affaire va être remise à zéro en quelque sorte.
Les ajustements de stratégie se nicheront peut-être dans les détails techniques. Ces derniers mois, la double finaliste à la présidentielle a consulté de nombreux juristes et recruter un deuxième avocat. Objectif, obtenir au minimum une peine atténuée permettant une candidature via une durée d'inéligibilité réduite ou le retrait de la fameuse exécution provisoire. Réponse à l'été et quel que soit le résultat, verdict politique en septembre.
En septembre, le Rassemblement National doit pouvoir être représenté à l'Assemblée Nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat.
Elle a déjà prévu de passer le flambeau à Jordan Bardella en cas d'empêchement si la peine était confirmée ou alourdie. La séquence qui s'ouvre va d'ailleurs lui demander beaucoup d'énergie car elle compte être présente aux audiences mais aussi faire campagne en parallèle avec des déplacements prévus dès cette semaine pour soutenir les candidats RN aux municipales.
On reste toujours en France où Alain Orsoni, figure du nationalisme corse, a été abattu hier aux obsèques de sa mère. L'ancien dirigeant nationaliste corse, Alain Orsoni, reconverti dans les affaires et ancien président du club de football d'Ajaccio, a été abattu hier lors des obsèques de sa mère dans le village de Véro, dans le département français de Corse du Sud. Et toujours en France, le gouvernement et l'état-major de l'armée française ont lancé hier une campagne en vue de recruter plusieurs milliers de jeunes pour un nouveau service national rémunéré d'une durée de 10 mois. Cette initiative avait été annoncée au mois de novembre dernier par le président Emmanuel Macron pour répondre aux besoins des armées face aux risques accrus de conflits. Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en session d'urgence hier pour examiner les frappes meurtrières des missiles et des drones menés par la Russie contre des civils et des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le Conseil a entendu les exposés de la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Rosemary DiCarlo, et du représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, Ramesh Rajasingham. Madame DiCarlo a évoqué la récente recrudescence des attaques russes alors que les températures descendent en dessous de zéro en Ukraine. Elle a indiqué que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avait vérifié la mort d'un peu moins de 15 000 civils, dont 763 enfants, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Selon M. Rajasingham, la situation humanitaire en Ukraine est catastrophique.
As the escalation of hostilities in Ukraine soon enters its fifth year, 10.8 million people in Ukraine urgently need humanitarian assistance.
Retour en Australie, où une journée de deuil national sera observée le 22 janvier en hommage aux victimes de l'attentat terroriste de Bondi. Le Premier ministre, Anthony Albanese, a déclaré que cette date avait été choisie après consultation avec le rabbin de Sydney, Yehoram Ullman, dont le gendre, le rabbin Eli Schlinger, figurait parmi les victimes. Des drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments du Commonwealth à travers l'Australie ce jour-là. Des plus amples informations seront communiquées en fin de semaine. Et un adolescent d'une petite ville australienne, comparaît ce mardi devant le tribunal pour des multiples chefs d'accusation d'appel d'urgence abusif aux États-Unis. Le commissaire adjoint par intérim de la police fédérale australienne, l'AFP, Graham Marshall, a déclaré que le jeune homme avait été arrêté suite à un renseignement du FBI. Le FBI affirmait qu'un membre australien d'un réseau criminel en ligne décentralisé était impliqué dans la pratique du swatting. L'AFP a publié un communiqué conjoint avec le FBI indiquant que le garçon aurait effectué des multiples fausses alertes au swatting, prétendant faussement que des fusillades de masse avaient lieu dans des grands magasins et établissements scolaires américains.
The FBI views swatting as a dangerous and disruptive crime that endangers lives and drains critical emergency resources. This case demonstrates that anonymity online is an illusion.
Et selon une nouvelle étude, les adolescents australiens qui n'utilisent jamais les réseaux sociaux présentent un risque accru de mal-être par rapport à leur père qui passe du temps en ligne. Publiée dans le Journal of the American Medical Association Pediatrics, cette étude montre également que les utilisateurs les plus actifs des réseaux sociaux sont eux aussi exposés à un risque plus élevé de mal-être. Les organisateurs de l'Eurovision ont procédé au tirage au sort officiel des demi-finales de cette année afin de déterminer les dates et les adversaires des pays participants. L'Australie participera à la deuxième demi-finale le 16 mai prochain aux côtés des pays comme la Norvège, la Suisse, l'Ukraine et Malte. Pour sa 70e édition, le plus grand événement musical télévisé en direct au monde aborde cette année un contexte marqué par un boycott politique sans précédent. Seuls 35 pays participeront en raison des objections à la participation d'Israël, un nombre record depuis l'élargissement du concours en 2004. Le directeur du concours Eurovision de la chanson, Martin Green, affirme cependant que malgré les objections, le spectacle aura bien lieu et doit avoir lieu.
This show was born from the ashes of the Second World War as an example that art, music can bring us together. And in a difficult world, we continue to prove that. This year is a very special one. I can think of no better place in the world than one of the capitals of music to celebrate the 70-year history of this extraordinary project.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Et à présent, les prévisions météo de ce mardi 13 janvier à travers le pays. Perth, temps généralement ensoleillé avec 31 degrés. Adélaïde ensoleillée également avec un maximum de 31 degrés. Melbourne nuageux avec 22 degrés. Éclaircie signalée à Hobart avec un maximum de 21 degrés. Temps généralement ensoleillé à Canberra avec un maximum de 34 degrés. Temps à Wollongong, on signale des éclaircies avec un maximum de 26 degrés, éclaircies également pour Sydney avec 29 degrés, et Newcastle éclaircies avec 26 degrés également. Brisbane, on signale des averses avec un maximum de 28 degrés, Cairns, quelques averses, risque d'orage et 33 degrés, tandis que Darwin, on signale des éclaircies à un maximum de 33 degrés.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.